Chapitre 11, dans lequel la chance tourne contre Barry. Mes espérances d'obtenir la main d'une des plus riches héritières d'Allemagne étaient maintenant, selon toute probabilité, et autant que mon propre mérite et ma prudence pouvaient assurer ma fortune, assez certaines de se réaliser. J'étais admis toutes les fois que je me présentais chez la princesse, et avait d'aussi fréquentes occasions que j'en désirais d'y voir la comtesse Ida. Je ne puis dire qu'elle me recevait avec une faveur particulière. Le cœur de cette sotte petite créature était, comme je l'ai dit, ignoblement engagé ailleurs. Et quelque séduisante que puissent être ma personne et mes manières, on ne devait pas s'attendre à ce qu'elle oubliât tout d'un coup son amant pour le jeune gentilhomme irlandais qui lui faisait la cour. Mais les petites rebuffades que j'essuyais étaient loin de me décourager. J'avais de très puissants amis qui devaient m'aider dans mon entreprise, et je savais que tôt ou tard, la victoire devait être à moi. Dans le fait, je n'attendais que mon moment pour faire valoir mes prétentions. Qui pouvait deviner le terrible coup du sort qui menaçait mon illustre protectrice et qui devait m'envelopper en partie dans sa ruine? Toutes choses semblèrent pour un temps favorables à mes vœux. Et en dépit de l'éloignement de la comtesse Ida, il était plus aisé de la ramener à la raison qu'on ne le suppose peut-être dans un absurde pays constitutionnel comme l'Angleterre, où le peuple n'est point élevé dans ces saines doctrines d'obéissance à la royauté qui dominaient en Europe à l'époque où j'étais un jeune homme. J'ai expliqué comment, par manie, j'avais la princesse, pour ainsi dire, à mes pieds. Son Altesse n'avait qu'à appuyer cette union auprès du vieux duc, sur qui son influence était sans bornes, et à s'assurer du bon vouloir de la comtesse de Liliengarten, titre romantique de l'épouse morganatique de son Altesse, et le facile vieillard donnerait l'ordre de notre mariage, et il faudrait bien que sa pupille y obéît. Madame de Liliengarten était aussi, à cause de sa position, extrêmement désireuse d'obliger la princesse Olivia, qui, un jour ou l'autre, pouvait être appelée à monter sur le trône. Le vieux duc était tout chancelant, apoplectique et excessivement amateur de bonne chère. Lorsqu'il ne serait plus, le patronage de la duchesse Olivia deviendrait tout à fait nécessaire à sa veuve. De là la parfaite intelligence qui régnait entre ces deux dames, et le monde disait que la princesse héréditaire avait déjà eu l'assistance de la favorite en diverses occasions. Son Altesse avait obtenu, par la comtesse, plusieurs grosses sommes d'argent pour le paiement de ses nombreuses dettes. Et maintenant, elle était assez bonne pour exercer sa gracieuse influence sur Madame de Liliengarten afin d'obtenir pour moi l'objet qui me tenait si fort à cœur. On ne doit point supposer que mon but pût être atteint sans répugnance et refus continuels de la part de Magny. Mais je poussai résolument ma pointe et j'avais en main de quoi triompher de l'obstination de ce faible jeune homme. Je puis dire aussi, sans vanité, que si la haute et puissante princesse me détestait, la comtesse, quoiqu'elle fût, disait-on, d'une origine extrêmement basse, avait meilleur goût et m'admirait. Elle nous faisait souvent l'honneur de s'associer à nous dans une des banques de notre pharaon et déclarait que j'étais le plus bel homme du duché. Tout ce qu'on me demandait était de prouver ma noblesse et je me fis faire à Vienne une généalogie de nature à satisfaire les plus avides en ce genre. Au fait, qu'est-ce qu'un jeune homme descendu des Barry et des Brady avait à craindre devant aucun fun d'Allemagne? Pour plus de sûreté, je promis à Madame de Liliengarten 10 000 louis le jour de mon mariage. Et elle savait que comme joueur, je n'avais jamais manqué à ma parole, et je jure que, quand j'aurais dû le payer 50%, j'aurais trouvé l'argent. Ainsi, par mes talents, par mon honnêteté, par ma finesse, eu égard à ma position de pauvre proscrit, je m'étais procuré de très puissants protecteurs. Même son Altesse le duc Victor était favorablement disposé pour moi. Son cheval de bataille favori ayant été pris de vertige, je lui donnais une boulette comme celle que mon oncle Brady avait l'habitude d'administrer. Je guéris le cheval, et depuis lors son Altesse daigna me remarquer souvent. Elle m'invita à ses parties de chasse à cour et à tir, où je me montrais bon chasseur, et une ou deux fois, elle daigna me parler de mes projets d'avenir, déplorant que je me fusse adonné au jeu et que je n'eusse pas adopté un mode plus régulier d'avancement. « Monsieur, dis-je, si votre Altesse veut me permettre de lui parler franchement, le jeu n'est pour moi qu'un moyen. Où aurais-je été sans cela? Je serais encore simple soldat dans les grenadiers du roi Frédéric. Je sors d'une race qui a donné des princes à mon pays, mais des persécutions les ont privés de leurs vastes possessions. La fidélité de mon oncle à son antique foi l'a chassé de notre pays. J'avais résolu aussi de faire mon chemin au service. » Mais l'insolence et les mauvais traitements des Anglais n'étaient pas supportables pour un gentilhomme de haute naissance, et je me suis enfui. Ce ne fut que pour tomber dans une autre servitude, à laquelle il semblait encore plus impossible de se soustraire, lorsque ma bonne étoile m'envoya un sauveur en la personne de mon oncle, et mon énergie et mon courage me mirent à même de profiter du moyen d'évasion qui s'offrait à moi. Depuis lors, nous avons vécu, je ne le déguise pas, du jeu. Mais qui peut dire que je lui ai fait tort? Cependant, si je pouvais me trouver dans un poste honorable et avec une existence assurée, excepté pour mon amusement, comme doit faire tout gentilhomme, je ne toucherai plus une carte de ma vie. Je supplie votre Altesse de s'informer de son résident à Berlin si, en toutes circonstances, je ne me suis pas conduit en vaillant soldat. Je sens que j'ai des talents d'un ordre plus élevé et je serai fier d'avoir occasion de les déployer si, comme je n'en doute pas, ma fortune me permet de le faire. » La candeur de ces paroles frappa vivement son Altesse, l'impressionna en ma faveur, et elle voulut bien dire qu'elle me croyait et qu'elle serait charmée de se montrer mon amie. Ayant ainsi gagné à ma cause les deux ducs, la duchesse et la favorite régnante, les chances étaient certainement que je remporterais le prix de la lutte. Et d'après tous les calculs ordinaires, je devrais être en ce moment prince de l'Empire si ma mauvaise fortune ne m'avait poursuivi en une chose où je n'étais pas le moins du monde à blâmer, je veux dire l'attachement de l'infortunée duchesse pour ce faible et sot poltron de Français. La publicité de cet amour était pénible à voir, comme sa fin fut effroyable à penser. La princesse ne s'en cachait nullement. Si Magny disait un mot à une dame de sa maison, elle devenait jalouse, et attaquait de toute la fureur de sa langue la malheureuse coupable. Il recevait d'elle une demi-douzaine de billets par jour. Lorsqu'il apparaissait à ses réceptions, petites ou grandes, elle était rayonnante à tel point que tout le monde le remarquait. C'était un prodige que son mari ne se fût pas aperçu depuis longtemps de son infidélité. Mais le prince Victor était lui-même d'une nature si élevée et si sévère qu'il ne pouvait pas croire qu'elle méconnût assez son rang pour oublier sa vertu. Et j'ai ouï dire que lorsqu'on lui faisait des insinuations au sujet de la partialité évidente que la princesse montrait pour l'écuyer, sa réponse était un ordre sévère de ne plus jamais l'importuner à cet égard. « La princesse est d'humeur légère, disait-il. Elle a été élevée dans une cour frivole. Mais sa folie ne va pas au-delà de la coquetterie. Le crime est impossible. Elle a sa naissance et mon nom et ses enfants pour la défendre. » Et il partait pour ses inspections militaires et restait absent plusieurs semaines ou se retirait dans ses appartements et s'y enfermait des jours entiers, ne paraissant que pour saluer au lever de la princesse ou pour lui donner la main au gala de la cour où l'étiquette exigeait qu'il se montrât. C'était un homme de goût vulgaire et je l'ai vu dans le jardin privé, avec son grand corps gauche, courir ou jouer à la balle avec son fils et sa fille, qu'il trouvait des prétextes d'aller voir une douzaine de fois par jour. Les sérénissimes enfants étaient amenés chaque matin à la toilette de leur mère, mais elle les recevait avec beaucoup d'indifférence, excepté une fois que le jeune duc Ludwig avait son petit uniforme de colonel de hussards, son parrain l'empereur Léopold lui ayant fait cadeau d'un régiment. Alors, pour un jour ou deux, la princesse Olivia fut charmée du petit garçon. Mais elle s'en fatigua vite, comme un enfant d'un jouet. Je me souviens qu'un jour, au cercle du matin, un peu de rouge de la princesse tomba sur la manche du petit uniforme blanc de son fils, sur quoi elle donna un soufflet au pauvre enfant et le renvoya tout en sanglots. Oh, tout le mal qu'ont fait les femmes en ce monde! Les malheurs dans lesquels les hommes sont entrés légèrement et la face souriante, souvent sans même l'excuse de la passion, par pure fatuité, vanité, bravade. Les hommes jouent avec ces terribles armes à deux tranchants, comme s'il ne pouvait leur en arriver aucun mal. Moi, qui ai plus vu de la vie que la plupart des hommes, Si j'avais un fils, je le supplierais à genoux d'éviter la femme qui est pire que le poison. Ayez une intrigue et toute votre vie est en danger. Vous ne savez pas quand le mal peut tomber sur vous et ce qu'un moment de folie peut causer de malheur à des familles entières et amener de ruines sur d'innocentes têtes qui vous sont parfaitement chères. Lorsque je vis à quel point l'infortuné M. de Magny paraissait perdu sans ressources, en dépit de tout ce que j'avais à réclamer de lui, je le pressai de fuir. Il avait un logement au palais, dans les mansardes, au-dessus des appartements de la princesse. C'était un vaste bâtiment, et qui contenait toute une population de nobles serviteurs de la famille. Mais l'infatué jeune fou ne voulut pas bouger, quoiqu'il n'eût pas même l'excuse de l'amour. « Comme elle est louche, disait-il de son Altesse, et comme elle est contrefaite. Elle croit que personne ne s'aperçoit de sa difformité. Elle m'écrit des vers pris dans Gresset ou dans Crébillon, et s'imagine que je les crois originaux. Bah, ils ne sont pas plus à elle que ses cheveux. » C'était de cette manière que ce jeune misérable dansait sur l'abîme qui s'ouvrait sous lui. Je crois que son principal plaisir en faisant la cour à la princesse était de pouvoir écrire ses victoires à ses amis des petites maisons de Paris, où il se mourait d'être considéré comme un bel esprit et un vainqueur de dames. Voyant l'insouciance de ce jeune homme et le danger de sa position, je devins très désireux que mes petits projets arrivassent à une conclusion satisfaisante, et je le pressai vivement à ce sujet. Mes sollicitations auprès de lui avaient, je n'ai pas besoin de le dire, par la nature de nos rapports, généralement assez de succès. Et dans le fait, le pauvre garçon n'avait rien à me refuser, comme je le lui disais souvent en riant, à sa médiocre satisfaction. Mais j'employais plus que des menaces ou que la légitime influence que j'avais sur lui. J'employais la délicatesse et la générosité. J'en puis citer pour preuve la promesse que je fis de rendre à la princesse cette émeraude de famille dont j'ai parlé dans le dernier chapitre et que j'avais gagné au jeu à son peu scrupuleux adorateur. Ce fut du consentement de mon oncle, et ce fut un de ces actes ordinaires de sagesse et de prévoyance qui distinguent cet habile homme. « Pressez l'affaire maintenant, Redmond, mon enfant, me recommandait-il. Cette intrigue entre la princesse et Magny doit finir mal pour tous deux, et cela bientôt, et alors quelle chance aurez-vous d'obtenir la comtesse? Voici l'instant. Faites capituler la place avant la fin du mois, et nous laisserons là notre banque et nous vivrons en seigneur dans notre château de Swab. Débarrassez-vous ici de cette émeraude, ajouta-t-il. S'il arrivait un accident, ce serait une vilaine chose à trouver dans nos mains. Ce fut ce qui me décida à renoncer à la possession de ce joyau, dont, je dois l'avouer, il me coûtait de me dessaisir. Ce fut un bonheur pour nous que je l'eusse fait, comme vous allez voir. Pendant ce temps-là, donc, je pressais Magny. Je parlais moi-même à la comtesse de Lilliengarten, qui me promit formellement d'appuyer ma demande auprès de son Altesse le duc régnant. Et M. de Magny eut pour instruction de décider la princesse Amalia à faire une semblable démarche auprès du vieux souverain en ma faveur. Elle fut faite. Les deux dames pressèrent le prince. Son Altesse, à un souper d'huîtres et de vin de champagne, fut amenée à consentir, et son Altesse la princesse héréditaire me fit l'honneur de notifier en personne à la comtesse Ida que l'intention du prince était qu'elle épousât le jeune seigneur irlandais, le chevalier Redmond de Ballybarry. La notification eut lieu en ma présence, et quoique la jeune comtesse dit « jamais » et tomba sans connaissance aux pieds de sa maîtresse, je fus, comme vous pensez bien, fort peu ému de ce petit déploiement de fade sensibilité et compris que j'étais sûr de ma proie. Ce soir-là, je remis l'émeraude au chevalier de Magny, qui promit de la rendre à la princesse. Et maintenant, mon seul obstacle était le prince héréditaire, dont son père, sa femme et la favorite, avaient également peur. Il pouvait ne pas être disposé à souffrir que la plus riche héritière de son duché tombât aux mains d'un noble, mais non riche étranger. Il fallait du temps pour faire cette ouverture au prince Victor. Il fallait que la princesse le prît dans un moment de bonne humeur. Il avait encore des jours d'enivrement où il ne savait rien refuser à sa femme, et notre plan était d'attendre un de ces jours ou toute autre chance qui pourrait s'offrir. Mais il était dit que la princesse n'aurait jamais son époux à ses pieds comme il y avait été souvent. Le destin préparait un terrible dénouement à ses folies et à mon propre espoir. En dépit des promesses solennelles qu'il m'avait faites, Magny ne rendit point l'émeraude à la princesse Olivia. Il avait su, dans ses relations accidentelles avec moi, que mon oncle et moi, nous avions eu des obligations à M. Moïse Leuve, le banquier de Heidelberg, qui nous avait donné un bon prix de nos objets de valeur. Et le jeune écervelé saisit un prétexte d'aller le trouver et voulut mettre le bijou en gage. Moïse Leuve reconnut sur le champ l'émeraude, donna à Magny la somme que ce dernier demandait et que le chevalier eut bientôt perdu au jeu, sans nous faire connaître, comme vous pouvez le penser, le moyen par lequel il se trouvait en possession d'une somme aussi forte. Nous supposions, quant à nous, qu'elle lui était fournie par son banquier habituel, la princesse. Les mains rouleaux de ces pièces d'or trouvèrent le chemin de notre caisse, lorsqu'au gala de la cour, dans notre propre logis, ou dans les appartements de Madame de Liliengarten, qui, en ces occasions, nous faisait l'honneur d'être de moitié avec nous, nous tenions notre banque de pharaon. Ainsi, l'argent de Magny fut bien vite parti. Mais quoique le juif gardât son joyau, qui valait sans aucun doute le triple de ce qu'il lui avait prêté, ce n'était pas tout le profit qu'il comptait tirer de son malheureux emprunteur, sur lequel il commença à exercer son autorité. Ses relations hébraïques à X, changeur, banquier, marchand de chevaux, qui avaient des acquaintances avec la cour, avaient dû dire à leur frère de Heidelberg quels étaient les rapports de Magny avec la princesse, et le coquin résolut d'en tirer avantage et de pressurer impitoyablement ses deux victimes. Mon oncle et moi, pendant ce temps-là, nous nagions en pleine prospérité, triomphant aux cartes, et, ce qui était plus important encore, au jeu matrimonial que nous étions en train de jouer. Et nous n'avions aucun soupçon de la mine qui se creusait sous nos pieds. Avant qu'un mois fût passé, le juif commença à tourmenter Magny. Il se présenta à X et demanda de plus gros intérêts de l'argent pour se taire. Autrement, il serait forcé de vendre l'émeraude. Magny lui donna de l'argent. La princesse était venue au secours de son poltron d'amant. Le succès de la première demande ne servit qu'à rendre la seconde plus exorbitante. Je ne sais pas combien d'argent fut extorqué et payé pour cette malencontreuse émeraude. Mais elle fut la cause de notre ruine à tous. Un soir, nous tenions notre banque, comme de coutume, chez la comtesse de Liliengarten, et Magny, étant en fond de manière ou d'autre, ne faisait que tirer rouleau sur rouleau et jouait avec son malheur habituel. Au milieu du jeu, on lui apporta un billet qu'il lut et dont la lecture le rendit très pâle. Mais la chance était contre lui, et regardant avec une certaine anxiété à la pendule, il attendit quelques coups de plus, et après avoir, je suppose, perdu son dernier rouleau, il se leva avec un jurement qui effaroucha plusieurs personnes de cette compagnie distinguée et sortit de la chambre. Un grand piétinement de chevaux au dehors se fit entendre, mais nous étions tous trop à notre affaire pour faire attention à ce bruit et nous continuâmes à jouer. Peu après, quelqu'un entra dans la salle de jeu et dit à la comtesse « Voici une singulière histoire. Un juif a été assassiné dans le Kaiserwald. Magny a été arrêté en sortant d'ici. » Toute la compagnie se sépara à cette étrange nouvelle et nous cessâmes notre banque pour ce soir-là. Magny avait été assis près de moi pendant le jeu, mon oncle donnait les cartes et moi je payais et prenais l'argent, et en regardant sous sa chaise, j'y trouvais un papier froissé que je ramassai et que je lus. C'était celui qu'on lui avait remis, et il était conçu en ces termes « Si vous l'avez fait, prenez le cheval de l'ordonnance qui vous apporte ceci. C'est le meilleur de mon écurie. Il y a 100 louis dans chaque fonte et les pistolets sont chargés. L'une ou l'autre voie vous est ouverte. Vous savez ce que je veux dire. Dans un quart d'heure, je saurai notre sort. Si je dois être déshonoré et vous survivre, si vous êtes coupable et lâche, ou si vous êtes encore digne du nom de M. » C'était l'écriture du vieux général de Magny. Et mon oncle et moi, comme nous rentrions chez nous après avoir fait et partagé avec la comtesse Liliengarten des bénéfices qui ne laissaient pas que d'être considérables ce soir-là, nous sentîmes notre triomphe plus que compromis par le contenu de cette lettre. Magny, nous demandâmes-nous, a-t-il volé le juif ou son intrigue a-t-elle été découverte? Dans les deux cas, mes prétentions sur la comtesse Ida étaient menacées d'un sérieux échec, et je commençais à me dire que mon grand coup de parti était joué et peut-être perdu. Eh bien, il était perdu. Mais je soutiens, jusqu'à ce jour, qu'il fut bien et vaillamment joué. Après souper, nous ne soupions jamais pendant le jeu, de peur des conséquences. Je devins si inquiet de ce qui se passait que je résolus de sortir vers minuit et de m'informer dans la ville du motif réel de l'arrestation de Magny. Une sentinelle était à la porte et me signifia que mon oncle et moi, nous étions prisonniers. Nous fûmes laissés 6 semaines dans notre logement, gardés de si près que l'évasion était impossible si nous en avions eu l'idée. Mais étant innocents, nous n'avions rien à craindre. La vie que nous menions n'était un secret pour personne, et nous désirions et appelions l'examen. Il arriva pendant ces 6 semaines de grands et tragiques événements qui, bien que nous en eussions appris la substance, comme fit toute l'Europe, lorsque nous sortîmes de notre captivité, étaient loin de nous être connus dans tous leurs détails, que je restais encore bien des années sans savoir. Les voici tels qu'ils me furent racontés par la dame qui, de tout l'univers, était la personne qui paraissait le mieux à portée de les connaître. Mais il vaut mieux en réserver le récit pour un autre chapitre. Chapitre 12, contenant la tragique histoire de la princesse de X. Plus de 20 ans après les événements racontés dans les chapitres qui précèdent, je me promenais avec Milady Linden dans la rotonde au Ranelagh. C'était en 1790. L'émigration de la France avait déjà commencé. Les anciens comtes et marquis accouraient en foule sur nos rivages, non pas affamés et misérables comme on les vit peu d'années après, mais non encore inquiétés et apportant avec eux des signes de leur splendeur nationale. Je me promenais donc avec Lady Linden, qui, proverbialement jalouse et toujours désireuse de me tourmenter, aperçut une dame étrangère qui évidemment me remarquait et, comme de raison, me demanda quelle était cette odieuse grosse Hollandaise qui me lançait ainsi des œillades. Je ne la connaissais pas le moins du monde. Il me semblait bien avoir vu ce visage-là quelque part. Il était maintenant, comme disait ma femme, énormément gras et bouffi. Mais je ne reconnaissais pas sous ses traits une des plus belles femmes de l'Allemagne de son temps. Ce n'était autre que Madame de Lilliengarten, la maîtresse, ou comme disaient certaines personnes, l'épouse morganatique du vieux duc de X, père du duc Victor. Elle avait quitté X peu de mois après la mort du grand-duc, avait été à Paris, à ce que j'appris, où quelque aventurier sans principe l'avait épousée pour son argent. Mais elle n'en avait pas moins conservé son titre quasi-royal, et, au grand amusement des Parisiens qui fréquentaient sa maison, prétendait aux honneurs et aux cérémoniales d'une veuve de souverain. Elle avait un trône dans sa salle d'apparat, et ses domestiques et ceux qui voulaient lui faire la cour ou lui emprunter de l'argent lui donnaient de l'altesse. Le bruit courait qu'elle buvait copieusement. Ce qu'il y a de certain, c'est que son visage portait toutes les marques de cette habitude et avait perdu ses roses et cet air de franchise et de bonne humeur dont avait été charmé le souverain qui l'avait anobli. Quoiqu'elle ne m'eût pas abordé dans le cercle du Ranelagh, j'étais, à cette époque, aussi connu que le prince de Galles, et elle n'eut aucune difficulté à trouver ma maison dans Berkeley Square, où un billet me fut expédié le lendemain matin. Une ancienne amie de M. de Balibari, y était-il dit en fort mauvais français, désire revoir le chevalier et causer de l'heureux temps d'autrefois. Rosine de Lilliengarten, se peut-il que Redmond Balibari l'ait oublié, sera chez elle dans Leicester Fields toute la matinée, attendant quelqu'un qui n'aurait pas ainsi passé près d'elle il y a 20 ans. C'était en effet Rosine de Lilliengarten, une Rosine épanouie comme j'en ai rarement vu. Je la trouvai à un premier étage assez convenable, dans Leicester Fields. La pauvre âme tomba beaucoup plus bas par la suite, prenant du thé qui, je ne sais comment, avait une odeur très prononcée d'eau-de-vie. Et après des salutations qui seraient encore plus ennuyeuses à raconter qu'elles ne le furent à faire, après quelques propos décousus, elle me fit brièvement en ces termes le récit des événements de X, que je puis bien intituler « La tragédie de la princesse ». Vous vous rappelez, monsieur de Geldern, le ministre de la police. Il était d'extraction hollandaise et qui plus est, d'une famille de juifs hollandais. Quoique tout le monde lui connût cette tâche dans son écusson, il était mortellement irrité quand on soupçonnait son origine et faisait amende honorable des erreurs de son père par de furibondes professions de foi et par les pratiques de dévotion les plus austères. Il allait à l'église tous les matins, se confessait une fois par semaine et haïssait les juifs et les protestants autant que l'aurait pu faire un inquisiteur. Il ne perdait jamais une occasion de prouver sa sincérité en persécutant les uns ou les autres toutes les fois qu'il le pouvait. Il haïssait mortellement la princesse, car son Altesse, dans un de ses caprices, lui avait jeté à la tête son origine, avait fait à table emporter du porc de devant lui ou quelque autre aussi sotte injure. Et il avait une violente animosité contre le vieux baron de Magny, tant comme protestant que parce que ce dernier, dans un accès d'humeur hautaine, lui avait publiquement tourné le dos comme à un nègre fin et à un espion. Il s'élevait continuellement entre eux des querelles dans le conseil, où la présence seule de son auguste maître empêchait le baron d'exprimer tout haut et fréquemment le mépris qu'il ressentait pour l'homme de police. Ainsi la haine était un motif pour Keldern de perdre la princesse, mais c'est mon opinion qu'il en avait encore un autre plus puissant, l'intérêt. Vous vous rappelez qui le duc épousa après la mort de sa première femme? Une princesse de la maison de F. Keldern bâtit son beau palais 2 ans après, et j'en suis convaincu, avec l'argent qui lui fut payé par la famille de F, pour faire réussir le mariage. Aller au prince Victor et rapporter à son Altesse un fait que tout le monde savait n'était nullement le désir de Keldern. Il savait que ce serait se perdre à tout jamais dans l'esprit du prince que de lui porter une nouvelle si désastreuse. Son plan était donc de laisser la chose s'expliquer d'elle-même à son Altesse. Et lorsque le temps fut venu, il chercha le moyen d'arriver à ses fins. Il avait des espions chez les deux Magny. Mais ceci, vous le savez, comme de raison, ayant l'expérience des usages du continent. Nous nous faisions tous espionner les uns les autres. Votre nègre, Zamor, je crois, était son nom, venait tous les matins me faire son rapport. Et j'amusais le vieux duc en lui racontant comme quoi vous vous exerciez au piquet et au dé dans la matinée, et vos querelles et vos intrigues. Nous levions de semblables contributions sur un chacun, à X, pour divertir le cher vieillard. Le valet de M. de Magny me faisait des rapports à moi et aussi à M. de Keldern. Je savais que l'émeraude était en gage, et c'était de ma bourse que la pauvre princesse tirait les fonds qui étaient remis à l'odieux Leuve et au jeune chevalier plus méprisable encore. Comment la princesse pouvait se fier à ce dernier, comme elle persistait à le faire, cela me passe. Mais il n'est pas d'infatuation comme celle d'une femme amoureuse. Et vous remarquerez, mon cher monsieur de Balipari, que notre sexe, généralement, fixe son choix sur un mauvais sujet. « Pas toujours, madame, me récriai-je. Votre humble serviteur a inspiré beaucoup de ces attachements-là. Je ne vois pas que cela attaque la vérité de la proposition, » dit sèchement la vieille dame, et elle continua son récit. Le juif, qui était détenteur de l'émeraude, avait fait beaucoup d'affaires avec la princesse, et il lui fut à la fin offert un tel pot de vin qu'il se détermina à se dessaisir du gage. Il commit l'inconcevable imprudence d'apporter l'émeraude à X et alla chez Magny, à qui la princesse avait remis l'argent qu'il fallait pour racheter le gage et qui était prêt à le payer. Leur entrevue eut lieu dans l'appartement de Magny, où son valet ne perdit pas un mot de leur conversation. Le jeune homme, qui n'attachait aucun prix à l'argent lorsqu'il en avait, l'offrit d'une manière si large que Leuve haussa ses prétentions et eut l'audace de demander le double de ce qui avait été convenu. Là-dessus, le chevalier perdit toute patience, tomba sur ce misérable et voulait le tuer, quand l'opportun valet entra précipitamment et lui sauva la vie. Il avait entendu toute la dispute, et le juif, terrifié, courut se réfugier dans ses bras. Magny, qui était vif et colère, mais non féroce, ordonna au domestique d'emmener ce coquin et n'y pensa plus. Peut-être n'était-il pas fâché d'être débarrassé de lui et d'avoir en sa possession une forte somme d'argent, 4000 ducats, avec lesquels il pourrait tenter encore la fortune, comme vous savez qu'il fit à votre table le soir. « Votre seigneurie était de moitié, madame, dis-je, et vous savez que Méguin ne m'enrichissait guère. » Le valet conduisit l'Israélite tremblant hors du palais, et il ne l'eut pas plutôt vu installé chez un de ses confrères, où il avait coutume de descendre, qu'il s'en alla au ministère de la police et raconta à son excellence jusqu'au dernier mot de la conversation qui avait eu lieu entre le juif et son maître. Geldern exprima la plus grande satisfaction de la prudence et de la fidélité de son espion. Il lui donna une bourse de 20 ducats et promit de pourvoir largement à ses besoins, comme il arrive aux grands de faire de ces sortes de promesses. Mais vous, monsieur de Balibari, vous savez combien ils les tiennent rarement. « Maintenant, dit monsieur de Geldern, allez et faites-moi savoir quand l'Israélite se propose de s'en retourner chez lui, ou s'il se repent et compte accepter l'argent. » L'homme alla faire cette commission. Sur ces entrefaites, pour plus de sûreté, Geldern arrangea une partie de jeu chez moi, vous invitant à y tenir votre banque, comme vous vous rappelez. Et, en même temps, trouvant moyen de faire savoir à Maxime de Magny qu'il y avait Pharaon chez madame de Liliengarten. C'était cet attrait auquel le pauvre garçon ne résistait pas. Je me souvenais de tout ceci, et je continuais d'écouter, stupéfait d'imagination de l'infernal ministre de la police. L'espion fit son message et revint dire qu'il avait pris des informations auprès des domestiques de la maison où logeait le banquier de Heidelberg et que l'intention de ce dernier était de quitter W dans l'après-midi. Il voyageait seul sur un vieux cheval, très humblement accoutré, à la manière de ses coreligionnaires. Johann, dit le ministre en frappant sur l'épaule de l'espion ravi, « je suis de plus en plus content de vous. J'ai réfléchi, depuis que vous m'avez quitté, à votre intelligence et à la manière fidèle dont vous m'avez servi. Et je trouverai bientôt une occasion de vous placer selon votre mérite. » « Quel chemin prend ce gueux d'Israélite ? Il va ce soir à R et doit passer par le Kaiserwald. Êtes-vous un homme de cœur, Johann Kerner ? Votre Excellence veut-elle me mettre à l'épreuve ? Dit l'homme, les yeux étincelants. « J'ai fait la guerre de 7 ans, et je n'en ai jamais manqué là. »« Eh bien, écoutez, l'émeraude doit être reprise aux Juifs. Rien qu'en la gardant, le misérable s'est rendu coupable de haute trahison. À l'homme qui m'apporte cette émeraude, je jure de donner 500 louis. Vous comprenez pourquoi il est nécessaire qu'elle soit rendue à son Altesse. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage. « Vous l'aurez ce soir, monsieur, » dit l'homme. Comme de juste, votre Excellence me garantit les suites en cas d'accident. « Bah !» répondit le ministre, « je vais vous payer moitié de la somme d'avance, tant j'ai confiance en vous. Tout accident est impossible si vous prenez convenablement vos mesures. Il y a 4 lieues de bois. Le juif va lentement. Il fera nuit avant qu'il puisse arriver, par exemple, au vieux moulin à poudre qui est dans le bois. Qui vous empêche de tendre une corde en travers de la route et de lui faire là son affaire. Revenez me trouver ce soir à souper. Si vous rencontrez quelques patrouilles, dites « les renards sont en liberté ». C'est le mot d'ordre pour cette nuit, elle vous laissera passer sans question. » L'homme s'en alla tout à fait charmé de sa commission, et tandis que Magny perdait son argent à notre table de Pharaon, son domestique dressait un guet-apens aux Juifs à l'endroit nommé Moulin à poudre dans le Kaiserwald. Le cheval du juif culbuta par-dessus une corde qui avait été mise en travers de la route. Et, quand son cavalier tomba en gémissant par terre, Johann Kerner se précipita sur lui, masqué et pistolet en main, et lui demanda son argent. Il n'avait aucune envie de tuer le juif, je crois, à moins que sa résistance ne le forçât d'en venir à cette extrémité. Et il ne commit pas non plus ce meurtre. Car au moment où le juif demandait en hurlant merci, et où son assaillant le menaçait du pistolet, survint une patrouille qui s'empara du voleur et du blessé. Kerner proféra un jurement. « Vous êtes venu trop tôt, » dit-il au sergent de police. « Les renards sont en liberté. »« Il y en a de prix, » dit le sergent sans s'émouvoir. Et il attacha les mains de mon homme avec la corde qui barrait le chemin. Le valet fut mis en croupe derrière un homme de la police. On en fit autant de leves, et nos gens rentrèrent ainsi en ville au tombé de la nuit. Ils furent conduits immédiatement à la police, et comme le chef se trouvait là, ils furent interrogés par son Excellence en personne. Tous deux furent rigoureusement fouillés. Les papiers du juif et ses écrins lui furent pris. Le joyau fut trouvé dans une poche secrète. Quant à l'espion, le ministre lui jeta un regard courroucé et dit « Eh mais, c'est le domestique du chevalier de Magny, un des écuyers de son Altesse !» Et sans écouter un mot de justification du pauvre diable terrifié, il le fit mettre au secret. Demandant son cheval, il se rendit alors chez le prince au palais et sollicita une audience immédiate. Lorsqu'il fut admis, il produisit l'émeraude. « Ce joyau, dit-il, a été trouvé sur un juif de Heidelberg qui est venu souvent ici depuis peu et a eu beaucoup de relations avec l'écuyer de la princesse, le chevalier de Magny. Cet après-midi, le domestique du chevalier est venu de chez son maître, accompagné de l'hébreu. On l'a entendu prendre des informations sur la route par laquelle celui-ci devait s'en retourner chez lui. Il l'a suivi, ou plutôt précédé, et a été surpris par ma police, dévalisant sa victime dans le Kaiserwald. Cet homme ne veut rien avouer, mais en le fouillant, on a trouvé sur lui une somme considérable d'argent. Et quoi que ce soit avec la plus vive peine que je me décide à concevoir une telle opinion, et à impliquer dans cette affaire un gentilhomme du caractère et du nom de M. de Magny, je dois me résigner à dire qu'il est de notre devoir de faire interroger le chevalier à ce sujet. Comme M. de Magny est au service particulier de la princesse et jouit de sa confiance, à ce que j'entends dire, je ne voudrais pas me hasarder à l'arrêter sans la permission de votre Altesse. » Le grand écuyer du prince, qui était ami du vieux baron de Magny et assistait à cette entrevue, n'eut pas plutôt entendu cette étrange nouvelle qu'il courut annoncer au vieux général le crime dont on accusait son petit-fils. Peut-être son Altesse elle-même n'était pas fâchée que son vieil ami et son maître dans l'art de la guerre eût la chance de sauver sa famille du déshonneur. En tout cas, M. de Hengst, le grand écuyer, eut la permission d'aller tirer le baron de sa sécurité et de lui apprendre l'accusation qui pesait sur l'infortuné chevalier. Il est possible qu'il s'attendît là à quelque terrible catastrophe de ce genre. Car, après avoir entendu le récit de M. de Hengst, comme ce dernier me le raconta depuis, il se contenta de dire « La volonté du ciel soit faite », refusa pour quelque temps de faire aucune démarche, et enfin, seulement à la sollicitation de son ami, se décida à écrire la lettre que Maxime de Magny reçut à notre table de jeu. Tandis qu'il y était à perdre l'argent de la princesse, la police faisait une descente dans son appartement, et y découvrait sans preuve, non de sa culpabilité au sujet du vol, mais de sa liaison criminelle avec la princesse, des gages d'amour donnés par elle, des lettres passionnées qu'elle lui avait écrites, des copies de sa propre correspondance avec ses jeunes amis de Paris. Le tout fut lu par le ministre de la police et soigneusement réuni et cacheté pour son Altesse le prince Victor. Je ne doute pas que Geldern n'eût tout lu, car en remettant le paquet au prince héréditaire, il lui dit que, par obéissance pour les ordres de son Altesse, il avait rassemblé les papiers du chevalier. Mais il n'avait pas besoin de dire que, quant à lui, sur son honneur, il n'en avait pas pris connaissance. Sa mésintelligence avec messieurs de Magny était connue. Il priait son Altesse de charger toute autre personne de juger l'accusation portée contre le jeune chevalier. Tout ceci se passait tandis que le chevalier était au jeu. La veine était contre lui. Elle vous était très favorable à cette époque, monsieur de Balibari. Il resta et perdit ses 4000 ducats. Il reçut le billet du général. Et telle était l'infatuation de ce malheureux joueur qu'au reçu du billet, il descendit dans la cour où l'attendait le cheval, prit l'argent que le pauvre vieux gentilhomme avait mis dans les fontes, remonta avec, le joua, le perdit, et lorsqu'il sortit pour s'enfuir, il était trop tard. Il fut arrêté au bas de mon escalier, comme vous alliez entrer chez vous. » Lorsqu'il arriva, quoique gardé par les soldats envoyés pour l'arrêter, le vieux général, qui attendait, fut transporté de joie à sa vue et se jeta dans ses bras et l'embrassa, pour la première fois, dit-on, depuis bien des années. « Le voici, monsieur, dit-il en sanglotant. Dieu merci, il n'est pas coupable du vol. » Puis il retomba sur un siège, s'abandonnant à une émotion pénible à voir, dirent les assistants, chez un homme si brave et connu pour être si froid et si sévère. « Un vol, dit le jeune homme, je jure devant Dieu que je n'en ai point commis. » et il y eut entre eux une touchante scène de quasi-réconciliation avant que le malheureux jeune homme fût conduit du corps de garde dans la prison d'où il ne devait plus jamais sortir. Ce soir-là, le duc examina les papiers que Keldern lui avait apportés. Ce fut, sans aucun doute, dans la toute première partie de cette lecture qu'il donna l'ordre de vous arrêter. Car vous fûtes pris à minuit, Magny à 10 heures, moment où le vieux baron de Magny avait vu son Altesse et protesté de l'innocence de son petit-fils. Et le prince l'avait reçu avec beaucoup de grâce et de bonté. Son Altesse dit qu'elle ne doutait pas que le jeune homme ne fût innocent. Sa naissance et son rang rendaient un tel crime impossible. Mais la prévention était trop forte contre lui. On savait que le jour même, il s'était enfermé avec le juif, qu'il avait reçu une somme considérable d'argent perdue par lui au jeu, et dont l'hébreu, indubitablement, avait été le prêteur, qu'il avait envoyé après lui son domestique, qui s'était informé de l'heure où le juif partirait, s'était mis en embuscade sur la route et l'avait dévalisé. Les soupçons étaient si forts contre le chevalier que la justice réclamait son arrestation, et jusqu'à ce qu'il se fût disculpé, il serait tenu dans une captivité qui ne serait point déshonorante, et on aurait tous les égards dus à son nom et au service de son honorable grand-père. Sur cette assurance, et après une cordiale poignée de main, le prince quitta le vieux général de Magny, et le vétéran alla se coucher, presque consolé, et convaincu que Maxime allait être relâché immédiatement. Mais le matin, avant le jour, le prince, qui avait passé la nuit à lire les papiers, appela d'un air effaré le page qui couchait en travers de la porte dans la pièce voisine, et lui dit d'amener les chevaux, qui étaient toujours tenus tout près dans l'écurie, et jetant une liasse de lettres dans une boîte, dit au page de la prendre et de le suivre à cheval. Ce jeune homme, M. de Weissenborn, conta ceci à une jeune personne qui était alors de ma maison, et qui est maintenant Madame de Weissenborn, et mère d'une 20aine d'enfants. Le page lui dit que jamais changement ne s'opéra en son auguste maître comme dans cette seule nuit. Ses yeux étaient injectés de sang, sa face livide, ses habits flottaient sur lui. Et lui qui s'était toujours montré à la parade dans une tenue aussi rigoureuse qu'aucun sergent de ses troupes, on aurait pu le voir galopant comme un fou dans les rues désertes, au point du jour, sans chapeau et ses cheveux sans poudre épars derrière lui. Le page, avec sa boîte de papier, brûlait le pavé derrière son maître. Ce n'était pas chose facile que de le suivre, et ils coururent du palais à la ville, et de là au quartier du général. Les sentinelles furent effrayées de l'étrange figure qui se précipitait sur la porte du général, et ne reconnaissant pas son Altesse, croisèrent la baïonnette et lui refusèrent l'entrée. « Imbécile !» dit Weissenborn, « c'est le prince !» Et ayant sonné comme si le feu était à la maison, le portier finit par ouvrir, et son Altesse monta 4 à 4 à la chambre à coucher du général, suivi du page avec la boîte. « Magny ! Magny ! » cria le prince, frappant de toutes ses forces à la porte. « Levez-vous !» Et aux questions faites du dedans par le vieillard, il répondit « C'est moi, Victor, le prince ! Levez-vous !» Et bientôt la porte fut ouverte par le général en robe de chambre, et le prince entra. Le page apporta la boîte et reçut l'ordre d'attendre dehors, ce qu'il fit. Mais la chambre à coucher de M. de Magny avait 2 portes donnant sur l'antichambre. La grande par laquelle on entrait dans sa chambre et une plus petite qui conduisait, comme c'est l'usage dans nos maisons, au cabinet qui communique avec l'alcôve où est le lit. Cette porte-ci se trouvait ouverte et M. de Weissenborn put ainsi voir et entendre tout ce qui se passait dans l'appartement. Le général, un peu agité, demanda à son Altesse la cause d'une visite si matinale, à quoi le prince ne répondit, pendant quelque temps, qu'en ouvrant sur lui des yeux égarés et en allant et venant par la chambre. À la fin, il lui dit « La cause, la voici !» en frappant la boîte du poing. Et comme il avait oublié d'en prendre la clé, il fit quelques pas vers la porte en disant « Weissenborn, là peut-être !» Mais voyant sur le poil un des couteaux de chasse du général, il le prit et dit « Cela fera l'affaire !» et il se mit à forcer la boîte avec la pointe du couteau. La pointe se cassa et il proféra un jurement, mais continua à taillader la boîte avec la lame brisée, qui était bien plus propre à son dessein que le long couteau pointu, et finit par réussir à enlever le couvercle. « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit-il en riant. « Voilà ce qu'il y a. Lisez ceci. Il y a encore ceci. Lisez-le. Et ceci encore. Non, non, pas ceci. C'est le portrait de quelque autre. Mais voici le sien. Reconnaissez-vous cela, Magny ? Le portrait de ma femme, la princesse. Pourquoi, vous et votre race maudite, êtes-vous jamais venu de France pour semer partout sur vos pas votre infernale perversité et pour perdre les honnêtes ménages d'Allemands ? Qu'avez-vous jamais eu de ma famille, vous et les vôtres, que confiance et bonté ? Vous étiez sans asile, nous vous en avons donné un, et voilà notre récompense. » Et il jeta la liasse de papier devant le vieux général, qui comprit aussitôt la vérité. Il la savait depuis longtemps, probablement, et il tomba sur un siège en se couvrant la face. Le prince continua de gesticuler et de pousser des cris. « Si un homme vous avait fait cette injure, Magny, avant que vous eussiez engendré le père de ce joueur, de cet infâme menteur qui est là-bas, vous auriez su vous venger. Vous l'auriez tué, oui, vous l'auriez tué. Mais qui me donnera le moyen de me venger, moi ? Je n'ai pas d'égal. Je ne puis pas me battre avec ce chien de Français, avec ce maquereau de Versailles, et le tuer pour prix de sa trahison, comme si son sang était le mien. » Le sang de Maxime de Magny, dit fièrement le vieux gentilhomme, vaut celui de tous les princes de la chrétienté. Puis-je le prendre ? S'écria le prince. Vous savez que non. Je n'ai pas le privilège de tout autre gentilhomme en Europe. Que dois-je faire ? Voyez-vous, Magny, j'avais la tête perdue quand je suis venu ici, je ne savais que faire. Vous m'avez servi 30 ans, vous m'avez sauvé 2 fois la vie. Il n'y a ici autour de mon pauvre vieux père que des fripons et des catins. Ni honnête femme, ni honnête homme. Vous êtes le seul, vous m'avez sauvé la vie. Dites-moi ce que je dois faire. » Ainsi, après avoir insulté M. de Magny, ce pauvre prince éperdu en venait à le supplier et finit par se jeter bel et bien à terre et par éclater en sanglots. Le vieux Magny, un des hommes les plus froids ordinairement et les plus rigides, lorsqu'il vit cette explosion de douleur, commença, d'après ce qui m'a été rapporté, à être aussi affecté que son maître. Le vieillard, de froid et de hautain, tomba tout à coup, pour ainsi dire, dans les lamentations et les pleurnichements de l'extrême vieillesse. Il perdit tout sentiment de dignité. Il se mit à genoux, et se livra à toutes sortes de folles et incohérentes tentatives de consolation, à tel point que Weissenborn me dit qu'il n'avait pu supporter la vue de cette scène et qu'il s'en était allé. Mais, d'après ce qui eut lieu peu de jours après, nous pouvons deviner les résultats de cette longue entrevue. Le prince, en quittant son vieux serviteur, oublia sa fatale boîte de papier et la renvoya chercher par le page. Le général était à genoux en prière dans la chambre, quand le jeune homme entra, et il ne fit que bouger et regarder d'un air effaré lorsque l'autre emporta le paquet. Le prince partit à cheval pour sa maison de chasse, à 3 lieues de X, et 3 jours après, Maxime de Magny mourut en prison, après avoir fait l'aveu qu'il avait comploté de voler le juif et qu'il s'était détruit par honte de son déshonneur. Mais on ne sait pas que ce fut le général lui-même qui porta du poison à son petit-fils. On a même dit qu'il lui brûla la cervelle dans la prison, mais cela n'est pas. Le général de Magny porta en effet à son petit-fils de quoi sortir de ce monde, représenta à ce jeune homme que la mort était inévitable, qu'elle serait publique et infamante s'il n'allait pas au-devant du châtiment, et là-dessus il le quitta. Mais ce ne fut pas de son propre mouvement, et ce ne fut qu'après avoir eu recours à tous les moyens d'échapper à sa destinée, comme vous le saurez, que cet être infortuné perdit la vie. Quant au général de Magny, il tomba tout à fait dans l'imbécilité peu de temps après la mort de son petit-fils et celle de mon honoré duc. Après que son Altesse le prince eut épousé la princesse Marie de F, comme ils étaient à se promener ensemble dans le parc anglais, ils rencontrèrent un jour le vieux Magny, qu'enroulait au soleil, dans le fauteuil dans lequel on le sortait communément après ses attaques de paralysie. « C'est ma femme, Magny, » dit le prince affectueusement, en prenant la main du vétéran. Et il ajouta, en se tournant vers la princesse, « Le général de Magny m'a sauvé la vie dans la guerre de 7 ans. »« Eh quoi, vous l'avez reprise ?» dit le vieillard. « Je voudrais bien que vous me rendissiez mon pauvre Maxime. » Il avait tout à fait oublié la mort de la pauvre Olivia, et le prince passa outre d'un air fort sombre. « Et maintenant, dit Madame de Liljengarten, je n'ai plus qu'une lugubre histoire à vous raconter, la mort de la princesse Olivia. Le récit en est encore plus horrible que celui que je viens de vous faire. » Après cette préface, la vieille dame reprit sa narration. La destinée de cette bonne et faible princesse fut hâtée, sinon occasionnée, par la lâcheté de Magny. Il avait trouvé le moyen de communiquer avec elle de sa prison, et son Altesse, qui n'était pas encore ouvertement en disgrâce, car le duc, par égard pour sa famille, persistait à n'accuser Magny que de vol, fit les efforts les plus désespérés pour lui venir en aide et pour obtenir à prix d'argent son évasion. Elle avait la tête tellement troublée qu'elle perdit toute espèce de patience et de prudence dans la conduite des plans qu'elle pouvait former pour la délivrance de Magny, car son mari était inexorable et faisait garder le chevalier de trop près pour que l'évasion fût possible. Elle offrit de mettre en gage les joyaux de la couronne entre les mains du banquier de la cour, qui, comme de raison, fut obligé de décliner l'offre. Elle tomba, dit-on, aux genoux de Geldern, le ministre de la police, et lui proposa Dieu sait quoi pour le corrompre. Finalement, elle vint pousser des cris auprès de mon pauvre cher duc que son âge, ses maladies et ses habitudes paisibles rendaient tout à fait incapable de supporter des scènes d'une nature si violente et qui, par suite de l'émotion soulevée dans son auguste sein par cette douleur frénétique, eut un accès dans lequel je fus bien près de le perdre. Que ces précieux jours aient été abrégés par cette affaire, je n'en fais aucun doute, car le pâté de Strasbourg, dont on a dit qu'il mourut, ne lui aurait pas fait de mal, j'en suis sûr, sans le coup qu'avaient porté à son cher et doux cœur les événements inusités auxquels il avait été forcé de prendre part. Tous les mouvements de la princesse étaient soigneusement, quoique non ostensiblement, surveillés par son mari, le prince Victor, qui, allant trouver son auguste père, lui signifia sévèrement que si son Altesse, mon duc, osait aider la princesse dans ses efforts pour délivrer Magny, lui, prince Victor, accuserait publiquement la princesse et son amant de haute trahison et prendrait des mesures avec la Diète pour faire descendre son père du trône comme incapable de régner. Ceci paralysa toute intervention de notre part, et Magny fut abandonné à sa destinée. Elle se termina, comme vous savez, fort subitement. Geldern, le ministre de la police, Hengst, le grand écuyer, et le colonel de la garde du prince se rendirent auprès du jeune homme dans sa prison, 2 jours après que son grand-père l'y était venu voir, et lui avait laissé la fiole de poison que le criminel n'eut pas le courage de prendre. Et Geldern signifia au jeune homme que, s'il ne prenait de lui-même l'eau de laurier fournie par le vieux Magny, des moyens de mort plus violents seraient instantanément employés contre lui et qu'un détachement de grenadiers attendait dans la cour pour l'expédier. Voyant cela, Magny, après des bassesses effroyables, après s'être traîné à genoux autour de la chambre, d'un de ses personnages à l'autre, pleurant et criant de terreur, finit par boire la potion en désespéré, et peu d'instants après, il n'était plus qu'un cadavre. Ainsi finit ce misérable jeune homme. Sa mort fut publiée dans la Gazette de la Cour 2 jours après. Il était dit que M. de M., frappé de remords d'avoir attenté à la vie du Juif, s'était empoisonné dans sa prison et en profitait de l'occasion pour prémunir les jeunes seigneurs du duché contre la terrible passion du jeu qui avait causé la ruine de ce jeune homme et avait fait tomber sur les cheveux blancs d'un des plus nobles et des plus honorables serviteurs du duc, un malheur irrémédiable. Les funérailles se firent décemment, mais sans publicité, et le général de Magny y assista. Le carrosse des 2 ducs et tous les principaux personnages de la cour rendirent visite au général. Il assista à la parade, comme d'habitude, le lendemain, sur la place de l'Arsenal, et le duc Victor, qui avait inspecté le bâtiment, en sortit appuyé sur le bras du brave vieux guerrier. Il fut d'une grâce toute particulière pour le vieillard et raconta à ses officiers l'histoire qu'il répétait souvent, comme quoi à Rosbach, où le contingent de X servait avec les troupes du malheureux Soubise, le général s'était jeté au-devant d'un dragon français qui serrait de près son Altesse dans la déroute, et avait reçu le coup destiné à son maître et tué l'assaillant. Et il fit allusion à la devise de la famille, Magny sans tache, et dit qu'il en avait toujours été ainsi de son brave ami et maître dans l'art de la guerre. Ce discours affecta vivement tous les assistants, à l'exception du vieux général qui salua sans rien dire. Lorsqu'il s'en retourna chez lui, on l'entendit marmotter « Magny sans tache, Magny sans tache ». Elle fut attaquée dans la nuit d'une paralysie dont il ne se remit jamais que partiellement. La nouvelle de la mort de Maxime avait été cachée à la princesse jusqu'à ce moment, une gazette ayant même été imprimée pour elle sans le paragraphe qui contenait la relation de son suicide. Mais elle finit par le savoir, je ne sais comment, et quand elle l'apprit, à ce comme on dit ces dames, elle poussa un cri et tomba comme frappée de mort. Puis elle s'assit sur son séant d'un air effaré et se mit à déraisonner comme une folle. Et alors on la porta dans son lit, où son médecin la visita et où elle fut prise d'une fièvre cérébrale. Tout le temps, le prince envoya savoir de ses nouvelles, et d'après l'ordre qu'il donna de préparer et de meubler son château de Schlangenfels, je ne fais aucun doute que son intention ne fût de la confiner là, comme on a fait de la malheureuse sœur de Sa Majesté britannique à Zell. Elle fit demander à plusieurs reprises une entrevue à son Altesse, qui la refusa, disant qu'il entrerait en communication avec la princesse lorsqu'elle serait suffisamment rétablie. À une de ses lettres irritées, il envoya pour réponse un paquet qui, lorsqu'il fut ouvert, se trouva contenir l'émeraude qui avait été le pivot de cette sombre intrigue. La princesse, cette fois, devint tout à fait frénétique, jura en présence de toutes ces dames qu'une mèche de cheveux de son cher Maxime lui était plus précieuse que tous les joyaux du monde, sonna pour avoir sa voiture et dit qu'elle voulait aller baiser la tombe du chevalier, proclama l'innocence de ce martyr et appela la punition du ciel et le ressentiment de sa famille sur l'assassin. Le prince, en apprenant ces discours, ils lui furent tous rapportés comme de raison, lança, dit-on, un de ces terribles regards que je me rappelle encore, et dit « Cela ne peut pas durer plus longtemps ». Toute cette journée et la suivante, la princesse Olivia les passa à dicter les lettres les plus passionnées au prince son père, au roi de France, de Naples et d'Espagne, ses parents, et à toutes les autres branches de sa famille, les adjurant dans les termes les plus incohérents de la protéger contre son boucher, son assassin de mari, l'accablant lui-même des plus sanglants reproches, et en même temps confessant son amour pour celui qui l'avait assassiné. Ce fut en vain que les dames qui lui étaient fidèles lui représentèrent l'inutilité de ses lettres et la dangereuse folie des aveux qu'elle y faisait. Elle insista pour les écrire, et elle les donnait à sa seconde dame d'Atour, une Française, son Altesse affectionna toujours les personnes de cette nation, laquelle avait la clé de sa cassette et portait chacune de ses épîtres à Geldern. Sauf qu'elle n'avait pas de réception publique, il n'y avait rien de changé au cérémonial de la maison de la princesse. Ces dames faisaient auprès d'elle leur service comme à l'ordinaire. Mais les seuls hommes admis étaient ses domestiques, son médecin et son chapelain. Et un jour qu'elle voulait aller dans le jardin, un éduc qui gardait la porte annonça à son Altesse que les ordres du prince étaient qu'elle restât dans ses appartements. Il donne, comme vous vous rappelez, sur le perron de l'escalier de marbre de Schloss X, et l'entrée de ceux du prince Victor est en face sur le même perron. L'espace est vaste, rempli de sofas et de bancs, et les gentilshommes et officiers de service qui venaient rendre leur devoir au duc s'en servaient comme d'une antichambre et y faisaient leur cour à son Altesse lorsqu'elle passait à 11 heures pour aller à la parade. À ce moment-là, les éducs qui étaient dans l'appartement de la princesse sortaient avec leur hallebarde et présentaient les armes au prince Victor, le même cérémonial étant observé de son côté quand les pages sortaient et annonçait l'approche de son Altesse. Les pages sortaient et disaient « Le prince, messieurs !» et les tambours battaient dans le vestibule, et les gentilshommes qui attendaient se levaient des bancs placés le long de la balustrade. Comme si sa destinée la poussait à la mort, un jour la princesse, comme ses gardes sortaient, et qu'elle savait que le prince était, comme de coutume, sur le perron à causer avec ses gentilshommes, anciennement il traversait l'appartement de la princesse et lui baisait la main, La princesse, qui avait été dans l'anxiété toute la matinée, se plaignant de la chaleur, insistant pour que toutes les portes de l'appartement restassent ouvertes, et donnant des signes d'une démence qui, je pense, était devenue évidente, s'élança d'un air effaré à la porte comme les gardes sortaient, se fraya un passage au milieu d'eux, et avant qu'un mot pût être dit, ou que ces dames pussent la suivre, elle fut en présence du duc Victor, qui causait comme d'habitude sur le perron, et se plaçant entre lui et l'escalier, elle se mit à l'apostropher avec une véhémence frénétique. « Sachez, messieurs, cria-t-elle, que cet homme est un assassin et un menteur, qu'il trame des complots contre d'honorables gentilshommes et les tue en prison. Sachez que moi aussi, je suis en prison et que je redoute le même sort. Le même boucher qui a tué Maxime de Magny peut, une de ces nuits, m'enfoncer le couteau dans la gorge. J'en appelle à vous et à tous les rois de l'Europe, mes augustes parents. Je demande à être affranchi de ce tyran et de ce scélérat, de ce menteur et de ce traître. Je vous adjure tous, comme gens d'honneur, de porter ces lettres à mes parents et de dire de qui vous les tenez. » Et à ces mots, l'infortuné se mit à disperser ses lettres dans la foule étonnée. « Que personne ne se baisse !» dit le prince d'une voix de tonnerre. « Madame de Gleim, vous auriez dû mieux surveiller votre malade. Appelez les médecins de la princesse. Le cerveau de son Altesse est affecté. Messieurs, ayez la bonté de vous retirer. » Et le prince se tint sur le perron, tandis que les gentilshommes descendaient le degré, et dit d'un air farouche à la sentinelle « Soldat, si elle bouge, frappez de votre hallebarde. » Sur quoi l'homme présenta la pointe de son arme au sein de la princesse. Et celle-ci, effrayée, recula et rentra dans son appartement. « Maintenant, monsieur de Weissenborn, dit le prince, ramassez tous ces papiers. » Et le prince rentra chez lui, précédé de ses pages, et n'en sortit que lorsqu'il eut vu brûler jusqu'au dernier de ses papiers. Le lendemain, la gazette de la cour contenait un bulletin signé des trois médecins, disant que son Altesse la princesse héréditaire avait une inflammation du cerveau et avait passé une nuit sans sommeil et agitée. Plusieurs bulletins de ce genre furent publiés jour sur jour. Toutes ces dames, sauf deux, furent dispensées de leur service. On plaça des gardes en dedans et en dehors de ces portes. On cloua ces fenêtres de façon que toute évasion fût impossible. Et vous savez ce qui eut lieu 10 jours après. Les cloches des églises, toute la nuit, et les prières des fidèles furent demandées pour une personne in extremis. Le matin parut une gazette encadrée de noir qui annonçait que la haute et puissante princesse Olivia Marie Ferdinand, épouse de son Altesse Sérénissime Victor Emmanuel, prince héréditaire de X, était morte dans la soirée du 24 janvier 1769. « Mais savez-vous comment elle mourut, monsieur ?»« C'est aussi un mystère. » Weissenborn, le page, joua un rôle dans cette sombre tragédie. Et le secret était si terrible que jamais, croyez-moi, jusqu'à la mort du prince Victor, je ne le révélais. Après le fatal esclandre que la princesse avait fait, le prince fit venir Weissenborn, et après lui avoir imposé le secret dans les termes les plus solennels, celui-ci n'en parla qu'à sa femme bien des années après. Il n'est vraiment pas de secret au monde que les femmes ne puissent savoir si elles le veulent. Il lui donna la commission mystérieuse que voici. « Il y a, dit son Altesse, sur la rive de Kehl, en face de Strasbourg, un homme dont le nom vous fera aisément trouver la demeure. Ce nom est Monsieur de Strasbourg. Vous vous informerez de lui tranquillement et sans faire de remarques. » Peut-être ferez-vous mieux d'aller pour cela à Strasbourg, où le personnage est parfaitement connu. Vous prendrez avec vous un camarade sur lequel vous puissiez tout à fait compter. Souvenez-vous-en, votre vie à tous deux dépend du secret. Vous vous assurerez d'un moment où M. de Strasbourg sera seul, ou seulement en compagnie des domestiques avec lesquels il vit. J'ai moi-même visité cet homme par accident à mon retour de Paris il y a 5 ans, et c'est ce qui m'engage à l'envoyer chercher dans la circonstance présente. Vous ferez attendre votre voiture à sa porte la nuit, et vous et votre camarade, vous entrerez masqués dans sa maison et lui présenterez une bourse de 100 louis en lui promettant le double de cette somme au retour de son expédition. S'il refuse, Vous devrez employer la violence pour le forcer de vous suivre. Vous le ferez monter dans la voiture, dont les stores seront baissés, l'un ou l'autre de vous ne le perdant pas de vue de toute la route et le menaçant de mort s'il se fait voir ou s'il crie. Vous le logerez ici, dans la vieille tour, où une chambre sera préparée pour lui. Et, sa besogne faite, vous le ramènerez chez lui avec la même promptitude et le même secret. Tels furent les ordres mystérieux que le prince Victor donna à son page, et Weissenborn, choisissant pour auxiliaire le lieutenant Bartenstein, partit pour son étrange expédition. Pendant tout ce temps-là, il régnait au palais un silence de deuil. Les bulletins de la Gazette de la Cour annonçaient la continuation de la maladie de la princesse, et quoiqu'elle n'eût que peu de monde autour d'elle, il circulait des histoires singulières et circonstanciées sur le progrès de son mal. Elle était tout à fait égarée, elle avait essayé de se tuer. Elle s'était imaginée être je ne sais combien de personnes. Des exprès avaient été envoyés à sa famille pour l'informer de son état, et des courriers dépêchés ostensiblement à Vienne et à Paris pour se procurer des médecins habiles à traiter les maladies du cerveau. Cette prétendue anxiété n'était qu'une feinte. Jamais l'intention n'avait été que la princesse se rétablît. Le jour où Weissenborn et Bartenstein revinrent de leur expédition, on annonça que Son Altesse la princesse était beaucoup plus mal. Le soir, le bruit courut par la ville qu'elle était à l'agonie. Et ce soir-là, l'infortunée créature essayait de s'évader. Elle avait une confiance illimitée dans la femme de chambre française qui la servait, et ce fut entre elle et cette femme que ce plan d'évasion fut combiné. La princesse mit ses joyaux dans une cassette. On lui avait découvert une porte secrète qui, de l'une de ses chambres, conduisait, disait-on, à la porte extérieure du palais. Et il lui fut remis une lettre, soi-disant du duc son beau-père, annonçant qu'on lui avait procuré une voiture et des chevaux qui l'amèneraient à B, endroit où elle pourrait communiquer avec sa famille et être en sûreté. L'infortuné, se fiant à la française, partit pour cette expédition. Le passage dans lequel elle s'était engagée était pratiqué dans les murs de la partie moderne du palais et aboutissait effectivement à la vieille tour du hibou, comme on l'appelait, sur le mur extérieur. La tour fut abattue ensuite, et pour cause. À un certain endroit, la chandelle que portait la femme de chambre s'éteignit, et la princesse aurait crié d'effroi, mais on lui saisit la main, et une voix lui fit « Chut !» Et l'instant d'après, un homme masqué, c'était le duc lui-même, accourut, la baïonna avec un mouchoir. On lui lia les mains et les jambes, et elle fut portée, toute pâmée de terreur, dans un souterrain où une personne qui l'attendait la mit dans un fauteuil et l'y attacha. Le même masque qu'il avait bâillonné vint, lui mit le cou à nu et dit « Il vaut mieux le faire maintenant qu'elle est évanouie. » Peut-être eût-ce été aussi bien, car lorsqu'elle revint à elle et que son confesseur, qui était présent, s'avança et tâcha de la préparer au traitement terrible qu'on allait lui faire subir et à l'état dans lequel elle allait entrer, elle ne songea qu'à jeter des cris comme une maniaque, à maudire le duc, ce boucher, ce tyran, et à appeler Magny, son cher Magny. À cela, le duc dit avec le plus grand calme que Dieu ait pitié de son âme coupable. Puis il se mit à genoux, ainsi que le confesseur et Geldern qui étaient là. Et quand Son Altesse laissa tomber son mouchoir, Weissenborn tomba évanoui, tandis que M. de Strasbourg, prenant Olivia des cheveux de derrière, séparait cette tête qui criait de son misérable corps de pécheresse. Que le ciel ait pitié de son âme. Telle fut l'histoire racontée par Madame de Lilliengarten, et le lecteur en extraira sans peine la partie dont nous fûmes affectés, mon oncle et moi, qui, après 6 semaines d'arrestation, avions été mis en liberté, avec l'ordre de quitter immédiatement le duché, et même une escorte de dragons pour nous conduire à la frontière. Ce que nous avions de propriété, il nous fut permis de le vendre et de le réaliser en argent, mais aucune dette de jeu ne nous fut payée, et ce fut fait de toutes mes espérances de mariage avec la comtesse Ida. Quand le duc Victor monta sur le trône, ce qu'il fit lorsque, 6 mois après, une apoplexie emporta le vieux souverain, son père, tous les bons vieux usages de X furent abandonnés, le jeu défendu. On fit faire à l'opéra et au ballet mi-tour à droite, et les régiments que le vieux duc avait vendus furent rappelés du service étranger. Avec eux arriva le famélique cousin de ma comtesse, l'enseigne, et il l'épousa. Je ne sais s'ils furent heureux ou non. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une femme d'un si pauvre esprit ne méritait pas une grande somme de plaisir. Le duc régnant de X se maria lui-même 4 ans après la mort de sa femme, et Geldern, quoiqu'il ne fût plus ministre de la police, bâtit la grande maison dont Madame de Liliengarten a parlé. Que devinrent les acteurs secondaires de cette grande tragédie? Dieu le sait. Seulement M. de Strasbourg fut rendu à ses fonctions. Quant au reste, le juif, la femme de chambre, l'espion de Magny, je ne sais rien d'eux. Ces instruments tranchants, dont les grands se servent pour se frayer leur voie, se brisent généralement à l'user. Et je n'ai jamais ouï dire que ceux qui les ont employés aient beaucoup de regrets de leur perte.